Du 3 au 13 décembre, hashtag 2050 le podcast, votre shoot de futur, passe en édition spéciale, ancrée dans le présent, à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. 10 jours d'une quotidienne pour comprendre la COP, découvrir les acteurs qui y contribuent, des initiatives, mais aussi entendre des voix peu entendues et pourtant engagées dans la lutte contre la crise climatique. Parce que le futur de notre planète se joue ici et maintenant. Aujourd'hui, avec ce nouvel épisode, vous allez avoir l'occasion d'entendre des voix que vous n'entendez pas habituellement. Celles d'un pays du Sud, celles d'un pays d'Afrique, des voix du Bénin. Parce que vous l'avez compris, les négociations de la COP25 se crispent. Un dialogue de sourds est installé entre les pays du Nord et ceux du Sud. Avec les voix béninoises que j'ai recueillies, je souhaite que vous puissiez entendre un discours décentré des propos habituels que l'on entend en France. Qu'attendent mes interlocuteurs de la COP? Quels sont les enjeux climatiques au Bénin? Quelles sont les réponses apportées? Voilà pour les grandes lignes de cet épisode. Mais avant tout, le Bénin. J'ai choisi le Bénin car c'est un pays que j'ai eu la chance de connaître un peu. Pendant 8 années de mon ancienne vie professionnelle, j'y allais régulièrement pour travailler avec mes collègues de la ville de Boïcon sur leurs projets, principalement d'eau potable et d'assainissement, ainsi que d'appui à l'entrepreneuriat des femmes. À l'est, le Nigeria, à l'ouest, le Togo, et au nord, le Niger et le Burkina Faso. Au sud, l'océan. Le pays compte 11 millions d'habitants. En 2017, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le positionnait au 163e rang sur 189 pays au regard de leur indice de développement humain. Au Bénin, l'environnement est un droit reconnu par la Constitution. Son article 27 dispose que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Une loi cadre de l'environnement adoptée en 1999 fixe les grandes orientations de la politique environnementale du pays. D'autres lois plus spécifiques traitent de la faune, des forêts, des sacs plastiques, etc. Lois et règlements qui se déclinent ensuite en programmes comme celui de 2002 sur la diversité biologique, ou un autre sur la lutte contre la désertification, d'adaptation au changement climatique, etc. Le pays est également signataire de l'accord de Paris. Après cette mise en contexte, je me dis que ce serait bien de commencer avec Lorenz. Lorenz Padonou est ingénieur agroéconomiste. Il préside l'ONG Initiative Verte pour un développement durable. Je l'ai eu au téléphone hier, 9 décembre. Je le laisse vous dire quelques mots de son ONG.
IVDD est une organisation non gouvernementale qui intervient dans le domaine donc, de l'agriculture durable, l'environnement, la conservation de la biodiversité. Nous intervenons dans le renforcement de capacités donc, des acteurs à la base, les acteurs les plus vulnérables, les femmes et les enfants.
Quant aux politiques environnementales et climatiques du pays, son avis est en demi-teinte. Écoutez.
Beaucoup de lois ont été votées, beaucoup de commissions ont été mises sur pied pour mieux aborder donc la question, essayer donc de mitiguer un peu donc les risques dans le changement climatique. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et ça se voit pas concrètement donc sur le terrain. Je crois que c'est comme un moteur diesel, je vais dire. Ça prend un tour de doucement. Le ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme a été recentré pour vraiment aborder donc la question donc du changement climatique. Aujourd'hui, on a un département qui s'occupe de ça au ministère. On a une commission nationale qui s'occupe donc de changement climatique et une loi qui a été votée sur les changements climatiques en 2018, je crois. Donc, je pense que l'État béninois est en train d'aborder donc le sujet donc avec une vraie rigueur. Mais pour le moment, l'impact n'est pas encore, parce que dans les commissions, dans ces commissions qu'on met en place, on ne met pas encore les bons acteurs, les gens qu'il faut. Ça peine à prendre, quoi. Ça peine à prendre.
Et quelle est la place des communautés locales dans ces programmes? Parce que ici, à la COP, si vous avez écouté les épisodes sur les marchés carbone ou sur les pertes et dommages, par exemple, vous avez noté que c'est souvent là que le bât blesse.
Ça s'oppose entièrement au Bénin. Quand même que des projets, programmes qui sont mis en place par les différentes organisations, les ONG de la place et puis même le gouvernement, essaient donc d'aborder un peu la question de au niveau des jeunes, notamment les femmes, qui sont donc les plus oubliées donc dans leur communauté, les plus marginalisées dans leur communauté. Il y a certaines communautés à la base qui ne sont pas encore même informées donc des effets donc du changement climatique. Ça veut dire qu'il y a un problème donc de vulgarisation, il y a un problème de travail donc de fond à la base. Et donc le problème se pose d'emblée et c'est à nous. Nous essayons au quotidien donc de les informer, nous essayons au quotidien de les aider à résoudre donc le problème.
Lorenz évoque ici les plus marginalisés, les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. Et le pays est-il confronté à des situations de migration climatique?
On a des communautés, par exemple, dans le centre du Bénin, quelque part, donc, dans une commune frontalière au Nigeria, qui sont en train donc, de se migrer. Il y a des migrations liées donc, au changement climatique. Au Bénin, il y a des migrations. Des gens qui quittent donc, parce qu'au Bénin, ça ne donne plus la terre, c'est-à-dire les effets ayant tellement eu d'impact sur ta communauté décide peut-être donc de traverser donc la frontière pour aller se chercher ailleurs. Il y a beaucoup qui se reconvertissent. Il y a autant de problèmes autour de la chose. Donc ce problème se pose aussi de façon d'emblée au Bénin.
J'ai également demandé à Lorenz s'il y avait une urgence climatique à traiter en priorité au Bénin.
C'est l'adaptation. Donc, comment faire pour que les communautés puissent produire donc à tout moment la saison, quel que soit le climat, pour s'autosuffire sur le plan alimentaire. Pour moi, s'il y a urgence, c'est d'investir donc dans la recherche.
Enfin, j'ai voulu connaître son regard sur les enjeux de la COP, notamment ce rapport de force Sud-Nord.
Oui, en fait, c'est un rapport de force déséquilibré. Hein. Les puissants auront toujours raison, les riches auront toujours raison. C'est un peu ça, malheureusement, nous sommes dans une société comme ça. Mais c'est une injustice sociale qui ne dit pas son nom. Et je pense que les États vraiment doivent essayer de voir un peu le tort qu'ils ont créé donc à l'Afrique, le tort qu'ils ont créé donc au monde entier, pas seulement nous en Afrique. Mais les effets du changement climatique ne sont pas les seuls à subir donc les revers. Regardez cette année en Italie, la montée de l'eau à Venise, c'est énorme. Et pas seulement en Italie, c'est un peu partout dans le monde. On voit donc les effets donc du changement climatique qui sautent à l'œil. Et je pense qu'ils doivent prendre conscience. Il faut que ça change. Il faut que nous soyons soutenus financièrement pour vraiment faire face donc à ces effets. Le gros challenge pour l'Afrique ici, c'est l'adaptation. Parce que le phénomène est là. Il faut vraiment qu'on s'adapte et maintenant il faut qu'on essaie donc de travailler aussi sur les générations futures, les enfants, sur la nécessité de préserver l'environnement pour ne plus vraiment davantage créer d'autres problèmes pour l'environnement, d'émettre aussi des gaz à effet de serre, avoir des réflexes éco-citoyens.
S'agissant de ce bras de fer entre les pays développés, premiers émetteurs de gaz à effet de serre, et les pays en développement, j'ai tendu mon micro à Isidore Gnolonfoun. Il est le maire de Cotonou, la capitale économique du pays. Il est membre de la délégation béninoise à la COP.
Les pays les plus développés polluent plus l'environnement. Et pour qu'il y ait une certaine équité, il est normal qu'ils puissent accompagner les pays en voie de développement, notamment les pays africains, d'abord par renforcement de capacités et par les financements. Pour avoir des projets bancables, il faut nécessairement que les gens soient formés à comment monter ces projets-là. Donc, il faut partir du renforcement des capacités et maintenant qu'il y ait des financements effectifs pour permettre vraiment, véritablement, aux pays en voie de développement de mettre en œuvre des projets d'adaptation qui puissent permettre d'assurer pour les générations futures un cadre de vie attrayant et vivable. C'est de ça qu'il s'agit. Les effets sont mondiaux. Les effets qu'on ressent dans les autres pays européens, dans les pays asiatiques, ça se ressent aussi en Afrique, d'où la nécessité d'une certaine solidarité.
Chers enfants citoyens, nous, enfants éco-citoyens, conscients de la menace qui plane sur notre cadre de vie du fait de la dégradation continue et irraisonnée de la planète, conscients que cette menace relève en majeure partie du refus des adultes de changer de comportement pour sauver la terre protectrice et nourricière. Conscient de la vulnérabilité de notre génération face aux défis planétaires. Conscient que les ressources naturelles, dites intarissables, s'épuisent tout de même. Conscient des enjeux socio-économiques liés au changement climatique. Conscient que les menaces climatiques obligent chaque citoyen de la planète, vieux, moins vieux, jeune, moins jeune, et nous autres, enfants, à prendre notre responsabilité individuelle et collective.
Accusons les adultes de crimes contre la planète. Condamnons les manœuvres visant à retarder la réelle mise en route de tous les protocoles et accords visant à favoriser la résilience planétaire. Invitons les adultes à moins de bavardage et plus d'action. Prenons la ferme résolution d'être des acteurs indéfectibles dans la sauvegarde de la planète. Prenons l'engagement d'œuvrer à la gestion raisonnée des ressources naturelles en préservant la terre qui nous a été donnée en héritage.
Moi, ambassadeur éco-citoyen, j'invite les politiques, les gouvernants, les organisations internationales, les entreprises et autres décideurs à plus d'action. Je dis non au discours creux. Ce que je veux et que j'exige maintenant, ce sont des actions.
Ces enfants béninois ont élevé leur voix depuis Madrid pour interpeller les dirigeants du monde et les rappeler à leurs responsabilités. Constance Genevet est la coordinatrice générale de l'association Les Tresseurs de Cordes, un cercle de réflexion et d'action citoyenne. Elle m'explique le contexte de cette charte que la délégation d'enfants a présentée.
Cette charte que nous avons souhaité présenter officiellement lors de la COP 25, c'est une charte qui a été rédigée par des enfants au Bénin. Dans un premier temps, nous avons souhaité que ce soit eux-mêmes qui rédigent cette charte, simplement pour que ça soit à la fois, ça rappelle leur engagement, donc qu'ils puissent avoir matérialisé cet engagement sur par écrit, et ensuite formuler leurs doléances auprès des dirigeants. Dans la charte, on ne fait pas qu'interpeller les responsables, les dirigeants, mais dans la charte, il y a aussi les engagements fermes que les enfants ont pris de sensibiliser déjà leur père et de changer de comportement, donc dans un premier temps. Donc, elle se veut être la Bible, on va dire, de tous les enfants du monde, en tout cas. Nous avons mis en ligne cette charte pour obtenir le maximum de signatures, ce qui veut dire que nous voulons que les gens le lisent au maximum pour que ça puisse toucher réellement leur cœur. Donc voilà, c'est une charte qui va beaucoup voyager et atteindre le plus grand nombre que possible. Il y a une sorte, je ne dirais pas de rage, mais c'est à peu près ça, qui se développe en eux en sachant qu'ils se disent que les adultes aujourd'hui n'ont plus grand-chose à perdre en fait et que c'est eux qui seront le plus impactés en fait par les effets du changement climatique. Et donc, ils ont compris simplement que c'est leur combat à eux et ils veulent être plus que jamais impliqués dans le combat. Donc, ce qu'ils montrent, ce qu'ils expriment, c'est réellement, en tout cas à mon sens, ce qu'ils vivent au fond d'eux.
Quelles sont les plus grandes urgences au Bénin aujourd'hui en termes d'écologie et de climat?
Alors, si vous m'avez donné une baguette magique au Bénin, la première chose que je vais avoir envie, qui est aujourd'hui en tout cas un combat du gouvernement actuel, hein, puisque nous avons voté une loi au Bénin désormais pour interdire l'utilisation des sacs plastiques, parce qu'on sait que c'est un danger très pratique, mais qui reste un danger. Et aujourd'hui, les populations, en tout cas, je pense, n'ont pas encore réellement conscience, en fait, de ce danger-là. Donc, on a pris cette loi. La loi a été votée, mais ce n'est pas encore matérialisé dans l'habitude, en fait, de tous les citoyens béninois. Donc, par tout moyen, puisque moi, je compte principalement sur l'éducation pour changer les choses. Donc, sensibiliser, communiquer au maximum pour que les gens puissent savoir réellement pourquoi on leur a dit de ne plus utiliser ces sacs plastiques-là. Et ensuite, nous avons également le problème de la montée des eaux. Hein, au Bénin, il y a eu pas mal de bâtiments qui ont disparu. Il y a eu des efforts. Dans un premier temps, ils ont installé des digues. Ça n'a pas réellement fonctionné. Et donc, si j'ai un SOS à gérer aujourd'hui, à créer aujourd'hui, c'est que les financements, en tout cas, qui sont promis aux pays les plus pauvres, afin qu'ils puissent faire justement faire face aux mesures de prévention et d'atténuation, qu'ils puissent vraiment bénéficier de ces fonds-là.
Comme partout dans le monde, la mobilisation des jeunes est primordiale. Autre enjeu fort, les questions agricoles. Lorenz en a parlé tout à l'heure. En effet, même si environ 44% de la population béninoise vit en ville, le pays reste d'abord rural. Alors il me paraissait important d'entendre un élu local, un maire, d'une ville de taille moyenne. Ici à Madrid, j'ai rencontré Ignace Uhorou. Il est le maire de Copargo depuis 2015. Copargo, c'est dans le département de la Donga, au nord-ouest du pays. 71 000 habitants sur 872 km². Dans sa commune, les activités sont d'abord agricoles. Il me parle, pour commencer, des impacts de la crise climatique dans le pays.
L'impact climatique dans notre pays se constate comme dans tous les pays de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et cela se traduit par les pluies qui ne respectent plus les dates d'arrivée, les saisons. Les producteurs n'arrivent plus à maîtriser, disons, le début des saisons, ce qui fait que leur culture, ce qu'ils produisent, n'arrive pas à couvrir un peu leur charge. Et cela est dû, disons, au bouleversement climatique que nous constatons ces dernières années. Vous allez voir que parfois les cultures sont inondées et aussi, elles n'arrivent pas, bien sûr, les cultures à atteindre leur maturité comme cela se doit pour que les rendements soient au rendez-vous. Également, vous allez voir, ça c'est ce qui concerne le nord du pays, mais du côté du sud, vous allez voir que c'est l'inondation des territoires où parfois l'eau arrive à déloger certains concitoyens. Donc, tout ceci ne se constatait pas par le passé.
Vous êtes donc membre de la délégation béninoise ici à la COP25 à Madrid. Quelles sont vos attentes par rapport aux négociations ?
Et nos attentes, d'abord, vous savez, effectivement, jusque-là, des ressources ont été mises à la disposition, disons, de nos États. Et vous savez bien vrai que les communes sont des prolongements de l'État central lui-même, mais aujourd'hui, ceux qui font plus face à ces problèmes du changement climatique, ce sont les territoires locaux. Donc, en tant que tel, notre souhait, c'est de voir dans quelle mesure ces ressources seront totalement transférées avec des conditions beaucoup plus assouplies au niveau des territoires pour la mise en œuvre des différents projets liés au changement climatique. Et mieux, voir dans quelle mesure accroître, disons, la consistance de ces ressources pour nous faciliter, disons, la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui dépassent, disons, les limites de nos capacités financières dans les communes aujourd'hui.
Et justement, ces revendications, j'imagine qu'elles sont partagées par d'autres maires au Bénin, en Afrique de l'Ouest, mais peut-être sur tout le continent, et aussi peut-être aussi dans plein de territoires, je pense à l'Amérique du Sud aussi. Est-ce que vous êtes organisé en alliance des territoires, ou en tout cas pour faire valoir votre position d'élus locaux?
Oui, bien sûr, naturellement. Vous savez, en matière de changement climatique, on ne saurait évoluer, disons, en solo. Il faut qu'on fédère un peu nos énergies parce que nous partageons les mêmes difficultés et porter d'une seule voix nos préoccupations. Moi, je pense que cela pourrait beaucoup plus apporter à nos négociations. Que ce soit au Bénin, vous prenez n'importe quel maire, je pense qu'il va vous dire un peu les difficultés, partager les mêmes difficultés que nous avons aussi, disons, dans la sous-région en Afrique de l'Ouest, tout comme les autres pays dont nous partageons également les mêmes réalités. Donc, en tant que tel, nous avons intérêt à évoluer, disons, en bloc, en synergie d'action.
Pour finir, est-ce qu'il y a une solution, alors peut-être qui ne va pas sortir des négociations de la COP qui n'est pas en jeu aujourd'hui, mais une solution qui vous paraît extrêmement importante pour avancer, alors soit sur l'atténuation des impacts, sur l'adaptation, sur la réduction des gaz à effet de serre comme...
Bon, mais au fait, comme je le dis souvent, moi je suis beaucoup plus accroché, étant responsable d'une commune rurale, je suis beaucoup plus adapté, disons, à l'adaptation au changement climatique. Parce que le phénomène, il est déjà là. Mais est-ce que nous allons rester stagnants? Non, il faut qu'on évolue. Alors là, cela nous oblige à nous adapter aux nouvelles conditions. Donc, en tant que tel, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est juste le transfert, disons, des technologies pour que nous puissions nous y adapter.
La COP. La délégation béninoise est conduite par le professeur Martin Pépin Aïna, directeur général de l'environnement et du climat du ministère béninois de l'environnement et du développement durable. Il m'a accordé une entrevue.
Aujourd'hui au Bénin, les impacts des changements climatiques se situent à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est à l'érosion côtière. Nous avons une côte de 125 km. Qui subit les aspects des changements climatiques avec la montée du niveau de mer. Ce qui fait que pour préserver notre territoire, nous sommes obligés donc de procéder à des renforcements de côtes. En dehors de ça, nous avons les vents violents. Les vents violents qui décoiffent pour la plupart du temps des maisons. Donc il faut y faire face, surtout à partir du sud vers le centre. Un peu au nord aussi, on a quelques vents violents, mais surtout au nord, c'est la sécheresse. Donc la sécheresse avec tout ce que cela comporte comme les pluies qui sont des pluies tardives, mais en même temps, quand elles arrivent, c'est de pluies torrentielles. Donc on subit les deux extrémités donc au niveau du nord. En dehors de tout ça, il faut ajouter la dégradation des terres. Donc aujourd'hui, nous procédons à la gestion durable des terres. Le Bénin a élaboré son plan d'action nationale gestion durable des terres.
Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui sont au cœur des négociations, les marchés carbone notamment, les systèmes de pertes et dommages.
Pertes et préjudices.
Voilà, pertes et préjudices. Pour vous, quelles sont vos attentes dans le cadre des négociations pied à pied qui sont menées entre les différents gouvernements et États de la planète ici à Madrid?
Vous faites bien d'évoquer ces deux sujets, surtout le marché carbone en ce qui concerne la comptabilisation dans une préservation de l'environnement sur le plan intégral. Parce que le marché carbone aujourd'hui souffre de transparence. Le marché carbone aujourd'hui souffre de mécanismes. Quel est le mécanisme de comptage qui permet de ne pas faire un double comptage? Aujourd'hui, nous en sommes là encore et au niveau des négociations, on n'est pas sorti. Et comment financer sans porter atteinte à l'intégrité de l'environnement et rester dans un environnement de façon solidaire? Parce qu'il faut que les pays développés reconnaissent véritablement que la transparence aussi, c'est à leur actif. Parce que tout compte fait, les changements climatiques, les aspects des changements climatiques n'épargnent plus les pays développés non plus. Nous avons assisté cette année à beaucoup de dérèglements qui se sont exprimés donc par des inondations et qui se sont exprimés par beaucoup de catastrophes. Donc les pays développés doivent comprendre que revoir l'ambition à la hausse en ce qui concerne nos contributions déterminées nationales, que c'est dans l'avantage de l'humanité tout entière. Malheureusement, ce n'est pas encore perçu. Qu'on veuille ou non aujourd'hui, tous les pays ont compris le bien fondé. Et si aujourd'hui les pays en développement continuent dans la phase de négociation, je crois que les pays développés devraient pouvoir saisir et mener jouer à la transparence sur le marché carbone et permettre aux uns aux autres donc de pouvoir participer. Chacun apporte sa pierre. Donc pour limiter donc les aspects des changements climatiques.
Alors, est-ce que tous ces enjeux sur le marché carbone, les aspects techniques, quelle méthodologie, comment on compte, comment on évite le double comptage, est-ce que c'est pas, ma question est peut-être un peu provocatrice, mais perdre du temps sur des aspects techniques alors que, par exemple, les rapports du GIEC disent que pour réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas les échanges, l'offre et la demande sur les quotas de carbone qui va impacter, c'est le fait que les combustibles fossiles restent fossiles dans le sol et qu'il faut développer des actions alternatives.
Je suis d'accord, il faut aller à de nouvelles technologies et des technologies innovantes. Mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que les pays développés continuent leurs émissions. Donc il faut limiter l'émission, même s'il faut réduire de l'autre côté en allant vers des technologies innovantes, des technologies nouvelles. Donc, je suis d'accord avec le GIEC, mais en même temps, on est obligé d'aller sur les deux fronts. On ne peut pas mener la lutte seulement pour dire on limite, alors que la production, l'humanité, la croissance donc démographique continue, les besoins sont toujours là. Donc, il faut répondre aux besoins qui s'imposent à nous désormais. Donc, il faut aller, je crois, sur les deux terrains. Dans la réduction, dit que ce qui est fossile reste fossile. Je crois que c'est bien de le dire, mais dans l'application, qu'est-ce que nous en faisons? Nous en faisons réellement. C'est pas possible. Il faut du temps pour en arriver là. Et ce temps pour développer de nouvelles technologies, c'est-à-dire des technologies innovantes, pour développer des mécanismes au niveau industriel qui nous permettent donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre, pendant ce temps, nous faisons quoi? Pendant ce temps, il faut de l'atténuation des impacts donc, de ce que nous avons déjà créé.
Et pendant ce temps, il faut aussi sans doute réparer le mal qui a été fait.
Le mal qui a été fait, tout à fait.
On peut évoquer les pertes et préjudices. Sur ce point de négociation, est-ce que vous sentez qu'il va pouvoir y avoir des avancées et aboutir à des choses intéressantes à la fin de la COP?
Sur ce point, les pays en développement sont toujours restés sur leur soif parce que pour ce qui concerne les pertes et préjudices, voilà donc un domaine où vous n'avez pas participé, mais vous subissez les conséquences. En réalité, c'est ça. Et pour ce qui concerne les pertes et préjudices, il faut reconnaître les pertes et préjudices liées donc aux effets néfastes des changements climatiques. Ce qui, aujourd'hui, pose problème parce que beaucoup pensent qu'il y a d'autres facteurs mais qui n'arrivent pas à les lier directement à ce que nous appelons pertes et préjudices. Mais il n'en demeure pas moins que le débat, pour bloquer le débat, les pays développés pensent à d'autres facteurs. Mais nous savons que ce que nous avons aujourd'hui comme catastrophe naturelle ou non, les changements climatiques en sont pour quelque chose. Donc voilà, il y a encore une clarification aussi du thème au niveau donc de pays développés et pays en développement pour que nous puissions avancer dans le débat. Pour le moment, nous en sommes encore dans les terminologies malheureusement.
Est-ce que, justement, avec tout ce qu'on a évoqué, votre état d'esprit, le vôtre et peut-être aussi celui de votre délégation, il est plutôt optimiste sur le fait d'avoir des avancées concrètes et réelles à la fin de cette COP où on risque de rester dans, justement, des positions un peu qui se confrontent?
Ma position est un peu mitigée parce que si je prends les 100 milliards qu'on doit mobiliser pour 2020, nous en sommes à 71 milliards aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un gap de 29 milliards à aller chercher, alors que nous avons passé 4 ans. Et dans le même temps, il y a eu le retrait donc, des États-Unis. Donc, vous voyez, mobiliser pour 2020 les 29 milliards, c'est pratiquement pas possible. Donc là, je suis très, très pessimiste. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais par contre, au niveau du marché carbone, je me dis qu'il y a encore de l'espoir. On peut avancer dans les débats et pouvoir trouver un terrain d'entente. Et au niveau des pertes et préjudices aussi, pourquoi pas, reconnaître aussi réellement donc les effets néfastes liés au changement climatique qui ont causé pas mal de dégâts donc, pour les pays les moins avancés.
On entend que les enjeux sont beaucoup liés au fait que les pays du Nord n'acceptent pas d'entendre et de voir la réalité des choses telle qu'elle est perçue par les pays du Sud. Est-ce qu'il n'est pas temps que les prochaines, parce que la prochaine COP aura lieu à Glasgow, là où aujourd'hui, enfin cette année, elle aurait dû avoir lieu au Chili, dans un pays du Sud, donc c'était important. Il faut, pour les prochaines à venir, de se dire maintenant, il faut vraiment qu'on soit dans un pays du Sud, qu'on entende encore plus les points de vue, voir autour de nous, pour changer le paradigme.
Pourquoi pas? Je crois que c'est bien d'aller toucher les réalités, mais je peux vous rassurer que des fois, c'est un débat de sous parce que les pays développés connaissent bien ces réalités. Et le changement climatique n'est pas plus une portion de l'humanité, du globe, où on va dire dans telle zone, on ne souffre pas encore des effets néfastes des changements climatiques. C'est vrai que ce n'est pas à la même échelle parce que d'autres ont développé des capacités d'adaptation, d'intervention beaucoup plus rapides, précoces et qui leur permettent d'anticiper. Ça, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que les effets sont ignorés de ceux qui font le saut. Donc, c'est pour vous dire en réalité que les pays développés le savent, mais s'il faut aller en Afrique pour qu'ils puissent toucher du bout des doigts, pourquoi pas? Je crois que ce serait aussi une approche et qui certainement va produire son effet.
Il y a énormément d'acteurs de la société civile, des ONG qui organisent des actions, des petites manifestations pour alerter sur certains points. Et un des sujets sur lesquels ils alertent, c'est le fait que le capitalisme tel qu'il est mené dans les pays occidentaux et conçu, est totalement incompatible avec les 1,5 degrés de l'accord de Paris, avec la justice climatique. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus?
Mais je suis tout à fait d'accord avec eux, hein, parce que même avec les contributions déterminées que nous avons aujourd'hui pour tenir la trajectoire inférieure à 2 degrés, voire les 1,5, même avec les contributions déterminées aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. Les rapports du GIEC le montrent que ce n'est pas possible. Donc, je suis d'accord. Donc, le capitalisme tel que conçu aujourd'hui ne permet pas réellement d'atteindre l'accord de Paris. Et donc, c'est difficile de le dire, mais je pense que nous avons un instrument dans nos mains qui est un instrument capable de nous propulser dans l'avenir et de pouvoir permettre aux générations futures d'avoir un cadre de vie plus sain. Mais nous refusons, en hypothéquant la vie de ceux qui vont arriver après nous. Et cette génération, si elle ne se décide pas pour voir la réalité en face, sera la génération qui aurait tué tout simplement l'humanité, parce que nous avons un mécanisme, un traité qui nous permet réellement d'avancer, qui nous permet de voir. Je me dis, à un certain niveau, est-ce que les pays développés ne regrettent pas l'accord de Paris? Est-ce que s'ils pouvaient aussi le dire comme le président américain, peut-être qu'il les aurait dû, et que c'est peut-être par conscience de ce que nous l'avons fait, il faut maintenant avancer que nous sommes encore là, parce qu'en réalité, les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris ne devaient pas prendre de temps, vu l'engouement, la scientifique est venue de pratiquement tous les pays. Donc l'accord de Paris est entré très vite en œuvre. Donc de façon précoce, on a eu un instrument où, si on doit voir l'engouement qu'on a connu à Paris et puis juste après toutes les scientifiques qu'on a eues, la ratification, on ne devrait plus être là en train de négocier. Donc, je me demande s'il n'y a pas un regret, s'il n'y a pas un goût amer de l'accord de Paris et qui ne veut pas dire son nom.
Alors, dites-moi, le Bénin vous semble-t-il moins lointain ? Avez-vous le sentiment de percevoir la question climatique autrement désormais? Comment jugez-vous ce bras de fer auquel s'adonnent les États négociateurs de la conférence des parties? À quelles issues vous attendez-vous? N'hésitez pas à me partager vos réponses sur les réseaux sociaux et sur mon répondeur. Dans tous les cas, affaire à suivre. Hashtag 2050, le podcast, poursuit son édition spéciale jusqu'à la fin de la semaine. En attendant, on se retrouve demain, jeudi 12 décembre, pour un nouvel épisode. Ce sera mon anniversaire d'ailleurs, alors une petite gourmandise vous attend, qui je l'espère vous amusera. Un peu de légèreté, mais aussi des vérités sur les enjeux écologiques auxquels nous faisons face, enfin peut-être auxquels je fais face. Suspense. D'ici là, soyons toujours curieux.